La scène n'a duré que quelques minutes à la barrière de péage d'Incarville ce matin du 14 mai. Transporté entre la prison d'Evreux et le tribunal de Rouen, un détenu qu'on surnomme la mouche, Mohamed Amra, 30 ans, sera libéré par les assaillants du fourgon pénitentiaire dans lequel il est transféré par une voiture bélier. Deux agents sont morts à la suite de cette violente opération d'évasion. Le brigadier Arnaud Garcia et le capitaine Fabrice Moello. Un hommage national leur sera rendu. Le suspect, lui, est aujourd'hui l'homme le plus recherché de France. À la suite de ces événements, le monde carcéral s'est mobilisé en Île-de-France, notamment à La Santé, à Fresnes, à Fleury-Mérogis. Une opération prison morte a été menée pour alerter sur les conditions d'exercice des agents pénitentiaires. Une question liée étroitement aux conditions de détention en Île-de-France ou à Cours comme ailleurs, la surpopulation carcérale dans des centres pénitentiaires souvent vétustes. Les prisons franciliennes débordent et les communes ne se bousculent pas vraiment pour en accueillir de nouvelles. C'est toute la complexité du problème. L'autre question que nous aborderons ce soir, c'est aussi la réinsertion des détenus une fois qu'ils ont purgé leur peine. Tous ces sujets, nous en débattrons ce soir avec François Corbert, délégué général de l'association Robin des Lois, Maître Ilyassine Mahalaoui, avocat pénaliste au barreau de Paris, et Erwan Saoudi, secrétaire interrégional du syndicat FO Justice. Île-de-France, un système carcéral à bout de souffle, c'est le nouveau sujet d'Île-de-France Politique ce soir. C'est parti. Et on va commencer très vite ce débat, mais avant cela, un petit focus quand même sur les différents centres pénitentiaires. Il en existe plusieurs sortes qui ne connaissent pas forcément les mêmes problèmes. Bonsoir Adèle Abderrahim. Quels sont les différents types de lieux de privation de liberté ?
Alors Alexia, il faut opérer une grande distinction entre maisons d'arrêt, établissements pour peine et centres pénitentiaires. Concernant les maisons d'arrêt, dans un premier temps, elles regroupent les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure à 2 ans ou dont la peine restante à purger est inférieure à 2 ans. Parmi elles, la plus grande d'Europe, il s'agit de Fleury-Mérogis dans l'Essonne et elle compte 3362 détenus en maison d'arrêt. C'est tout simplement le type d'établissement qui souffre le plus du surpeuplement carcéral avec une densité de plus de 137% en mars 2022 selon une étude menée par le ministère de la Justice. En cause, l'impossibilité d'aménager une peine d'emprisonnement de plus d'un an couplé à une durée moyenne de détention de plus en plus longue. En ce qui concerne les établissements pour peine, ils reçoivent des condamnés à de longues peines, donc au moins 2 ans. En principe, un numerus clausus est appliqué, ce qui veut dire que le nombre de personnes est limité, car ces établissements doivent respecter le principe d'une personne par cellule. Dans ces établissements pour peine, il existe plusieurs divisions. Les centres de détention, ils accueillent ceux dont la peine est supérieure ou égale à 1 an et dont la réinsertion est possible et donc principalement visée. Il y a ensuite les maisons centrales qui, elles, accueillent les condamnés qui peuvent présenter des risques. Ici, on va donc privilégier la sécurité. Il y a ensuite les centres de semi-liberté qui accueillent des détenus autorisés à sortir en journée pour exercer une activité professionnelle, suivre une formation ou bénéficier d'un traitement médical. Les centres pour peines aménagées, ici, sont concernés les condamnés admis au régime du placement extérieur, c'est-à-dire que les personnes qui purgeront leur peine dans des centres adaptés à leur condamnation, ça se fait généralement auprès d'une association en charge de l'hébergement et du contrôle des applications, des obligations de cette personne. Il y a enfin les établissements pénitentiaires pour mineurs qui, eux, accueillent les détenus mineurs, donc comme son nom l'indique, dont le jugement a eu lieu ou non. Et certaines maisons d'arrêt comprennent, elles aussi, des quartiers pour mineurs. Il existe une dernière appellation, celle des centres pénitentiaires. Ici, c'est assez simple, ce sont des établissements mixtes qui comprennent au moins 2 quartiers avec des régimes de détention différents parmi la liste précédemment indiquée. Par exemple, un centre de détention et une maison centrale, comme on peut en trouver dans le centre pénitentiaire sud-francilien à Réau, en Seine-et-Marne.
Merci beaucoup Adèle Abderrahim donc pour cette présentation bien complète. Les chiffres sont assez édifiants quand on regarde la surpopulation carcérale puisqu'elle a atteint effectivement son niveau le plus haut au premier trimestre. Les chiffres de mars 2024 font état de près de 150% de taux d'occupation dans les prisons. C'est quoi la cause de cette surpopulation carcérale ?
Je crois que contrairement à ce qu'on entend tous les jours, toute l'année, venant de certains partis ou mouvements, la justice n'est pas du tout laxiste. Les peines sont prononcées, la justice tape dur. Alors pas forcément dans des choses qu'on voit à la télévision, mais tous les jours, en comparution immédiate. Et par conséquent, les prisons se remplissent mécaniquement. Parallèlement, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de réinsertion faisable. L'idée de la réinsertion, et c'est de ça qu'on va parler ce soir, qui est intéressant, c'est que ça concerne toute la société. C'est-à-dire, quand quelqu'un est enfermé, on s'en débarrasse, on le met en sécurité. Bon, on protège la société, mais il faut penser que cet homme, qui peut être votre frère, votre père, votre mari, un jour, il va sortir. Donc l'intérêt de cet homme, ou d'une femme éventuelle, il y a aussi des femmes en prison, c'est de sortir dans les meilleures conditions possibles. Et ce n'est pas du tout évident quand on a passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, à tort ou à raison. Après, la peine, c'est un autre problème. Et qu'on est condamné, ce n'est pas du tout évident de préparer la sortie, de trouver un emploi. Ceux qui sont accompagnés, parce que l'épouse est restée là, fidèle, et avec les enfants, bah, ont plus de chances de ne pas récidiver. Et donc, ça, ça ne marche pas très bien, et je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus ce soir, parce qu'on manque de moyens, on manque d'aide pour que les gens qui sont enfermés puissent accéder à aller voir un employeur. Enfin, on manque de passerelles avec le monde de l'entreprise. Il y a tous les matins 200 à 300 000 emplois qui ne trouvent pas preneur, et il y a des gens qui sont dans les prisons, qui sont compétents, qui ne seront jamais Bac plus 5, mais qui peuvent être mécaniciens, chauffeurs. Bon. Donc il y a un énorme travail à faire de prise de conscience collective, et je suis très heureux qu'on puisse parler de ça de façon, je crois, dépassionnée ce soir, parce qu'on est d'accord sur le diagnostic, je pense, et on va être d'accord sur l'évolution de la société. Ça évolue, mais très lentement. Et il est évident que les événements comme la semaine dernière, qui sont épouvantables, pollue le débat, parce que ça devient hystérique.
Ça permet aussi de prendre de la hauteur. Maître voilà. Malawi, est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, qu'il y a de plus en plus de condamnations? Est-ce qu'il y a un effet JO aussi?
Écoutez, l'effet JO, je ne sais pas. Je vais peut-être pas rentrer dans une parenthèse, on va dire, répressive, précisément sur les JO, sur ce que est en train de gérer le parquet de Paris, évidemment, pour faire face peut-être à une recrudescence de la délinquance. Mais je veux rejoindre ce qui était indiqué, justement, sur l'aspect de l'idée qu'on se fait, nous aussi, de la prison. Dire, moi, si vous voulez, j'avais un enseignant dans mes études qui nous expliquait, en psychiatrie criminelle, que, et c'est, ça rebondit sur ce qui a été indiqué, vous savez, la société, c'est un peu comme une feuille avec une marge rouge. Ceux qui ont transgressé la loi, finalement, sont à l'intérieur de la marge rouge, mais font toujours partie de la feuille. Ils sont des nôtres. Alors, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un discours politique qui a envie de séduire beaucoup de gens en faisant croire que la prison, ce serait peut-être une annexe du Club Med, que les gens ont la PlayStation, qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, etc. Ce que je dis, et ce qui est très important de rappeler, c'est que dans notre droit pénal, peut-être un jour ce sera différent, les choses peuvent changer, c'est que la prison est une peine privative de liberté. Ça n'est pas une peine privative de dignité. Donc à partir du moment où on accepte cela, eh bien il faut peut-être considérer que les gens qui ont transgressé la loi pénale méritent aussi un tout petit peu de dignité et un peu de respect, quand bien même ils auraient transgressé la loi. Je tiens quand même souvent à rappeler, il ne faut pas oublier quelque chose, purger sa peine, ça vient du purgatoire. On s'amende, on purge. On est aux antipodes du concept américain du cumul des peines. On estime qu'on peut être quelqu'un qui a déraillé, pardonnez-moi cette trivialité, à l'âge de 20 ans, et à 40 ans, être un homme meilleur. Donc c'est aussi l'idée de la prison qu'il faut travailler. Ensuite, vous me direz sur la répression. Moi, je suis d'accord. Il y a toujours une espèce de légende un peu évanescente qui est un peu partout, en disant que finalement, les juges seraient un peu des juges rouges, et qu'à Bobigny, un peu partout en Île-de-France, ils sont extrêmement gentils avec les méchants délinquants. Pour faire du droit pénal de manière extrêmement intensive, ça n'est pas le retour que j'ai de mes expériences. Voilà.
Erwan Saoudi, votre réaction justement à tout ce qui vient d'être dit. Et puis vous, en tant finalement qu'agent pénitentiaire, qu'est-ce que vous en avez à dire, et ces conséquences aussi de la surpopulation carcérale?
Moi, je vais avoir un avis en fait finalement très pragmatique, parce que pour moi, la surpopulation carcérale, c'est tout simplement mes conditions d'exercice, de travail.
Oui.
Et il est évident que quand on a une cellule de 9 mètres carrés prévue pour une personne et qu'on y met 3 personnes, ça crée évidemment de la tension, et que le travail est difficile. Donc il est certain que pour faire de la réinsertion, il faut pouvoir avoir du temps, il faut pouvoir mettre des choses en place. Et quand on est un seul agent pour gérer jusqu'à 150, 160 détenus, on est dans l'urgence. Et l'urgence devient le quotidien. Et donc du coup, c'est vrai que ce volet de réinsertion, il passe au second plan.
Il passe au second plan, donc c'est finalement la réinsertion n'est plus l'objectif principal. Finalement, vous faites un peu ce qu'on pourrait appeler du flicage.
Alors, pas le flicage, mais parce qu'après, comment dire, dans une détention, sa vie, hein, comme à l'intérieur. Donc, du coup, il y a évidemment les promenades, les parloirs avocats. Vous allez avoir la distribution du repas, ne prendre la douche, hein, un truc basique. Mais ces choses basiques, quand vous avez 160 détenus et que vous êtes seul, ça prend un temps fou. Et du coup, on peut pas dégager de temps, ou en tout cas pas suffisamment pour justement avoir...
Je parlais juste tout à l'heure de l'effet JO parce que j'en parlais parce qu'en fait ce sont les barreaux d'Île-de-France hein, qui ont alerté le garde des Sceaux justement sur cet effet JO. Je vous laisse rebondir sur ce que disait
Je vais vous parler d'effet JO parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire en faisant l'analogie avec ce qui s'est passé pendant le Covid et votre question initiale, les prisons complètes, mais je vous en parlerai après. Je voulais juste dire un mot qui va complètement compléter ce que c'est que la vie des surveillants et des surveillantes, c'est quelque chose de terrible. Je le dis quelquefois en plaisantant, même pour 10 000 euros par mois, je ne voudrais pas faire ce métier. Arriver, se lever à 6h30 et ouvrir une cellule où il y a 4 personnes qui sont entassées ou 3 avec une tension évidente, ce n'est pas leur faute. Quoi qu'ils aient fait, c'est des conditions. Je parle des maisons d'arrêt, et ça a été très bien présenté au départ, parce qu'il ne faut surtout pas mélanger, puisqu'on est en Ile-de-France, les maisons d'arrêt qui sont surpeuplées, qui sont gravement surpeuplées, avec par exemple le centre de détention de Melun, où les gens sont une place, une personne.
Les maisons centrales également.
Voilà. Alors c'est des conditions de vie qui sont dures aussi, mais pour les surveillants, ce n'est pas du tout le même travail. Et heureusement, depuis quelques années, l'idée a quand même progresser dans la société, que les surveillants n'étaient pas des abrutis et pas des gens qui étaient là uniquement pour la trique, pour reprendre ce que vous disiez, mais qui sont là effectivement pour essayer. Et la réinsertion, ça peut commencer tout simplement avec un type qui n'est pas bien, qui est toxicomane, qui est... parce qu'il n'y a pas que des caïds, des mecs solides qui sont derrière les barreaux. Et la porte qui s'ouvre, mais ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui, il faut avoir le temps de parler. Et ça, c'est une
dimension. Vous avez le temps de parler, Erwan
Sayed ? Eh ben non, justement, on n'a pas le temps de parler. Alors évidemment, hein, quand je dis ça, quand on voit quelqu'un qui est mal, c'est vrai qu'on est le premier maillon de la chaîne. Hein. C'est nous qui allons s'apercevoir quand on ouvre la porte de, comment dire, de l'intégrité physique de la personne détenue et suite son état mental. Quand quelqu'un va mal, etc., c'est nous qui signalons au service de SPIP ou même encore au médical. Et c'est vrai que quand on n'a pas le temps de s'arrêter quelques temps pour pouvoir discuter justement et pouvoir un peu déceler ce mal-être, eh ben, on ne fait pas le travail comme on devrait le faire et on fait ce qu'on peut. Je peux vous garantir que mes collègues se donnent corps et âme. Voilà, ont très peu de repos, accumulent les heures supplémentaires.
Quand vous entendez ça, je ne ferai pas ce métier pour, même pour 10 000 euros par mois.
Ben, malheureusement, on le fait, pour beaucoup moins.
C'est douloureux.
Ouais, c'est douloureux. Mais alors après, il ne faut pas... c'est un métier qui est beau. Hein. Moi, c'est un métier que j'ai appris à aimer. C'est un métier où finalement, l'humain est quand même au centre. Hein. C'est un métier très humain, comme on pourrait pas le penser, mais si.
Mais ce n'était pas péjoratif, ma remarque. C'était extrêmement difficile.
C'était même plutôt compatissant.
Même plus difficile que celui des policiers qu'on voit dans la rue. Bon, parce qu'ils ont, c'est pas du tout. Là, ils sont enfermés du matin au soir avec des gens qui ne sont pas là pour le plaisir, qui sont là par force. Et donc, dans les conditions actuelles, dans les maisons d'arrêt, c'est un enfer. Venir travailler, il faudrait vraiment les saluer. Mais c'est en train d'évoluer dans le bon sens depuis quelques années, parce qu'on est sorti du cliché, c'est mal l'expression, on ne le dit plus, les matons, abrutis, c'est fini. Il y a beaucoup de jeunes qui sont eux-mêmes pas très loin des jeunes qui sont détenus, qui sont des mêmes générations, qui sont du même milieu. Et ça a beaucoup changé, l'état d'esprit des prisons, il y a encore du boulot à faire. Pour vous répondre sur les JO, il y a quelque chose de très intéressant, il n'est pas trop tard pour le lancer. On a écrit au garde des Sceaux, pendant le Covid, ça répond tout à fait à ce que vous avez dit sur la surpopulation. La surpopulation a baissé de façon drastique pendant le Covid. Pourquoi ? Parce qu'on a pris un décret, deux décrets à l'époque, pour faire libérer de façon un peu anticipée des gens qui allaient sortir de toute manière. Mmh. Alors, on n'a pas libéré des grands méchants, bon, mais c'est des gens qui leur restaient 3 mois, ils sont sortis 1 mois plus tôt. Bon, pour schématiser. Parallèlement, il y a eu une consigne avec les parquets de France d'éviter de mettre des peines à exécution. Alors, c'est moral, c'est pas moral, mais la peine, elle restait là, elle était toujours en suspens sur les gens. Mais quand le parquet a dans les tiroirs des peines, le type s'est pas présenté ou il n'est pas mis en mandat de dépôt, et 6 mois après, on va dire, monsieur, il y a 6 mois à faire. Bon. Et ça contribue évidemment à remplir les prisons tous les jours, et c'est normal. Le parquet fait son boulot, au cas par cas. Si un avocat va le voir, dit, écoutez, bon, il a un boulot, bon, on peut oublier, la peine sera non exécutée, mais elle est quand même présente au casier. Donc, nous demandons, ce soir, je le fais officiellement, on a fait un courrier, mais il est un peu tard, mais c'est jouable encore, que précisément il va y avoir un effet JO, c'est évident, parce qu'il va y avoir des populations qui vont venir faire la fête ou pas la fête. Il va y avoir des étrangers, sans doute sympathiques, mais qui vont aussi. Et il va y avoir forcément une surpopulation, ça va être un enfer.
Donc ça va encore augmenter pendant voilà. Les jeux.
Donc on propose qu'il y ait un décret, comme ça avait été fait pendant le Covid,
ouais.
Qui prenne des soupapes. Il ne s'agit pas de libérer mais des gens à qui il reste un mois, deux mois, trois mois à faire, les libérer un peu anticipés. Et demander au parquet d'éviter d'envoyer des gens en prison.
C'est la demande que vous faites. Donc
ça permettrait à tout le monde de respirer. C'est pas scandaleux. Pendant le Covid, les Français ont très bien compris. Mm. Une fois qu'on a eu dit « Ah, ben, on va libérer les fous », non. Ils ont bien vu qu'il n'y a pas eu de vague de crimes.
Bien sûr.
Parce que ce sont des gens qui seraient sortis de toute manière assez vite.
Dans un ou deux mois. Dominique Simonneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, a rendu un rapport, hein, c'était au début de l'année, et elle parle justement de ces conditions de détention. Elle craint des risques d'incendie notamment, elle évoquait également des personnes qui dorment à plusieurs dans leurs cellules. Elle évoque des conditions de détention qui sont très très dures et qui sont dues justement à la surpopulation carcérale. C'est vous aussi ce que vous constatez ?
Ben écoutez, moi, il y a quelque chose de très parlant. Il faut le rappeler, il y a des directives européennes qui imposent un certain métrage, par exemple pour les animaux. Il n'y a pas de telle directive pour les êtres humains.
C'est...
Donc, qu'en pensons-nous ?
Ouais.
Sur notre politique pénale et sur ce que nous voulons.
Sur la dignité humaine.
C'est comme les 30 dernières années, lorsque l'on dit dans le discours politique ambiant, la liberté c'est bien, mais la sécurité. C'est la sécurité que l'on vise.
Mmh.
La sécurité, c'est bien, mais la liberté. C'est la liberté qu'on vise. Donc, si vous voulez, lorsque l'on se dit, et je voudrais rebondir aussi sur une chose, c'est inévitablement, indubitablement lié, j'ai envie de dire, la façon dont on traite les détenus et les agents pénitentiaires. C'est-à-dire que lorsque l'on travaille avec des personnes qui se sentent avilies, et qui se disent en réalité, je suis là, je dois être privé de ma liberté, mais en réalité, lorsque je me retrouve dans 9 mètres carrés ou et quelques avec 3 personnes, que c'est extrêmement difficile, je suis désolé, mais ça ne permet pas d'avoir des gens apaisés. Je ne dis pas qu'on doit les loger comme dans un hôtel de bonne qualité, je dis simplement que ça fait partie, encore une fois, que les deux fronts sont liés. Lorsque l'on traite des détenus avec humanité, en se disant finalement qu'ils doivent payer le prix de leur infraction, eh bien en réalité, on le voit, je vais vous dire une petite parenthèse, mais qui est parlante. Des fois, on le voit même dans les tribunaux. Dans les tribunaux, j'ai envie de dire, de fortune, qui fonctionnent avec très peu de moyens, qui sont très difficiles, etc. On sent des tensions qu'on ne ressent pas, par exemple, dans le 17e, dans ce très beau palais de justice qui vient d'être créé, neuf. Voilà. Je veux dire, on est tributaire de son milieu et de son environnement.
Mm.
Et lorsqu'on est agent pénitentiaire, eh bien, si on a des gens qui sont à trois dans une cellule extrêmement exiguë, forcément, il y a des tensions. Et quand on ouvre la porte, c'est pas toujours des salutations et de la courtoisie.
Mmh. C'est le cas, Erwan Saoudi ?
Non, c'est pas toujours des salutations et de la courtoisie, je confirme.
Sur la question de la surpopulation carcérale, le gouvernement a lancé un plan de construction de prisons. Parmi les villes concernées, il y avait Magnanville, par exemple, dans les Yvelines, qui, dès 2021, s'est fortement mobilisé contre ce futur centre qui devrait accueillir jusqu'à 700 détenus. Une réunion publique est d'ailleurs organisée par le maire en amont d'une concertation publique qui aura lieu donc à l'initiative de la préfecture. Il y a un petit problème quand même, c'est qu'aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas assez de places dans les prisons, mais personne ne veut l'accueillir à côté. Alors, de chez soi.
Juste une petite... c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, et les sociologues y ont répondu il y a déjà très longtemps. On pourrait construire 25 prisons aujourd'hui nouvelles en France, des mégastructures, elles seraient toutes pleines. C'est une réalité. C'est une réalité.
Donc, plus on ouvre de places de prison, plus on incarcère, c'est ce que vous dites.
Évidemment. Oui. Évidemment, mais ça a été étudié par de nombreux sociologues avant. Peut-être certains politiciens devraient peut-être revoir leurs ouvrages.
Mais à l'inverse.
Ils devraient peut-être revoir leurs ouvrages. Et c'est même un sentiment de criminalité. Si vous voulez, même au Brésil, il y a des homicides partout. On n'enquête pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, la délinquance est très haute. Alors en France, si par exemple, on se dit on a des places, eh bien même l'arsenal va se doter peut-être de quelque chose de plus répressif. Vous voyez, on a abaissé de 2 ans à 1 an. Ensuite, on n'aménage pas. Donc, en réalité, si vous voulez, je ne suis pas certain. Alors, je pourrais soliloquer, on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est un débat au long cours, de savoir comment on fait en réalité. C'est voilà, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas, en tout cas, l'arrogance de dire que je la détiens. Je dis simplement que je crois, et je suis même sûr, j'ai très peu de certitudes, mais que ce n'est pas en créant de nouvelles prisons que nous allons solutionner le problème.
Et qu'on va améliorer les conditions des détenus ?
Alors, améliorer, si. Par exemple, Fresnes n'a rien à faire. On ne peut pas dire que la maison d'arrêt de Fresnes doit rester ouverte avec les conditions. C'est des douches, je ne sais tous les combien de temps. Les personnes sont traitées, voilà, je le dis, vraiment, comme je ne suis pas sûr qu'on les traite avec le respect qu'un être humain mérite. Alors, on pourrait toujours dire un nivellement par le bas, en disant regardez en Érythrée, regardez en Russie, sur un 50 dans des cellules. Moi, je dis qu'on devrait avoir un standard de respect par rapport à notre ordonnancement juridique qui respecte les droits et l'humanité de chacun.
François Corbert, vous vouliez réagir?
Oui, en pensant, enfin, c'est une chose que je voudrais faire passer, puisqu'on a un débat très, très apaisé et très constructif, c'est de penser que, moi je suis frappé dans les événements qui se déroulent, malheureusement, tragiquement, la semaine dernière, où dès qu'on parle de la prison, c'est toujours parce qu'il y a un événement un peu grave. Je ne voudrais pas que les gens qui nous écoutent perdent de vue que ces prisonniers, ce n'est pas des gens à trois pattes, ou avec des, comme dans les films américains, avec les boulets aux pieds. Ça, c'est des gens comme nous. Ils peuvent, ça peut être leur fils, leur père, leur, et ils peuvent être dans le métro avec eux. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais créé une association qui s'appelait Justice Deuxième Chance pour aider des gens à sortir avec un travail en liaison avec les entreprises. Pour l'entreprise, la prison, c'est un non-sujet. Or, ils ont un rôle à jouer, on est en pleine réinsertion. Un petit patron, un grand patron, d'embaucher, de faire une promesse d'embauche à quelqu'un qui est enfermé. Ça lui permet de sortir, plus vite peut-être, mais encadré, avec de quoi vivre, plutôt que d'aller recommencer des conneries. Bon. Donc, la sensibilité, c'est important de dire que les détenus, c'est des gens comme vous et moi. Alors, il y a quelques grands psychopathes qui, eux, ne sortiront pratiquement jamais parce qu'on sait qu'ils sont très dangereux à vie. Je nomme personne, mais enfin, bon, ils ont pris perpétuité, c'est vraiment... Mais la plupart des gens, vous les croisez dans le métro, et je me souviens, quand j'ai monté cette association, c'était un grand responsable des ressources humaines d'une grande entreprise. On était autour de la table, et d'autres DRH, et il dit, mais comment on fait pour reconnaître un détenu? Oui. Je lui dis, monsieur, ce matin, vous avez pris le métro, peut-être.
Vous avez peut-être détenu, croisé des détenus.
Voilà, parce qu'on a l'impression, dans les médias notamment, mais certains médias, pas BFM, qui est une très bonne chaîne.
Gentil.
Non, mais le débat, ce soir, le monde. Mais dans certains médias, ces jours-ci, on a l'impression que c'est des monstres, que c'est pas des gens qui ont trois pattes et qui débarquent de la Lune. C'est des gens comme vous et moi. Et donc, on les punit, mais il faut sans arrêt penser qu'à un moment ou un autre, ils vont sortir. Et donc, les aider à sortir... Or, pour l'instant, la plupart du temps, c'est on les met en prison, c'est les oubliettes. Puis quand ils ressortent, on s'étonne que ça ne marche pas.
On va justement,
et sur l'effet JO, parce qu'on peut encore agir, je crois vraiment qu'on peut, mécaniquement, ça répond à votre question à notre avocat, sur le fait qu'effectivement, chaque fois qu'une prison est construite, elle est immédiatement remplie. Alors, il y a des tas de raisons, notamment parce qu'il y a de la place. Donc, les parquets envoient des gens faire leur peine. Enfin, il y a une espèce de satisfaction. Et vous avez un exemple qui sera confirmé par notre débatteur surveillant, c'est la santé. La santé a été fermée parce qu'elle était dans un état épouvantable. Elle a été entièrement rénovée. Et aujourd'hui, elle est surpeuplée. Je n'ai pas les dernières nouvelles hier soir. Elle est complètement surpeuplée alors qu'elle est neuve, hein, c'est ça?
Oui, elle est surpeuplée.
On va avancer un tout petit peu, pardon. Je voudrais qu'on parle un petit peu justement des extractions. Vous avez eu, alors les syndicats en tout cas, ont eu rendez-vous avec le garde des Sceaux. Au menu des demandes auprès de Éric Dupond-Moretti, il y avait notamment le fait de faire venir davantage les magistrats en prison, le fait donc de réduire le nombre forcément d'extractions de détenus. Et puis surtout d'avoir un matériel plus adapté. Aujourd'hui, c'est quoi le matériel? Ça se passe comment une extraction de détenus?
Alors aujourd'hui, ce qui va être fait dans un premier temps, c'est la refonte de la classification des extractions. Vous avez en fait plusieurs niveaux, 1, 2, 3, 4, selon la dangerosité de la personne détenue. Et face à cette dangerosité, on met 1, 2 véhicules, des collègues armés ou non. Voilà. Donc ce qui va être revu, ça va être revu. Et on va avoir du coup des armes supplémentaires. Des armes, aujourd'hui, on n'avait que des armes de poing. Et là, on va aller sur des catégories supérieures parce que effectivement, à l'extérieur, on s'est bien vu, c'est avec des armes de guerre, etc.
Parce que c'était auparavant la gendarmerie et la police qui s'occupaient.
C'est ça, il y a une dizaine d'années. On a repris ces missions il y a une dizaine d'années, et là on les a repris une fois de plus. Hein, c'est avec des moyens qui étaient moindres, et avec des équipements qui étaient moindres, et des formations aussi des agents moins aguerris à ce genre d'exercice.
Ce que vous dites, c'est quoi? C'est que c'est un métier à risque et que les agents le savent en le choisissant?
Bien sûr, c'est un métier à risque, hein, comme peut l'être pompier. Quand on fait ce métier, on sait très bien à quoi s'attendre. Alors après, on ne va pas tous les jours au travail en se disant qu'on va se faire assassiner. Hein, je vous rassure quand même. Ça se passe de façon relativement normale. Mais c'est vrai qu'il y a une montée qui ne représente pas la totalité de la pénitentiaire, mais il y a une montée de violence sur certains profils qui est vraiment extrême, et on doit s'adapter à cette violence. Mmh. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit fébrile sur l'équipement, sur des choses comme ça, parce qu'il y a une réalité qui est en face. Et forcément, si on veut être au minimum dissuasif pour éviter ce genre d'incident, il faut pouvoir montrer qu'on est en capacité de répondre.
Maître Yassine Malaoui, je voulais réagir.
Oui, alors par rapport aux extractions, je parle de manière générale, parce qu'il y a peut-être une idée qui pourrait paraître séduisante à certains, de se dire finalement on fait que des visios, et c'est très bien comme ça. Je crois que ce serait un revers phénoménal contre notre droit pénal et son esprit. Il faut le dire, il y a certains qui pensent qu'en réalité, la visio...
Vos clients en visio, par exemple, c'est inimaginable.
Alors moi, je suis absolument contre. Oui. Je suis absolument contre. Il faut déjà comprendre une chose. Il y a des gens en détention, comme il a pu brillamment être détaillé cela, et c'est pas des gens... C'est des gens, alors, sidérantes à la question comment reconnaître les détenus. Bon, si on empêche cette question-là, c'est vrai qu'on est très loin du rivage. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, on est quand même face à des hommes, des femmes qui sont jugés, qui ne sont pas toujours jugés, qui sont mis en examen, en détention provisoire, qui espèrent recouvrer une liberté parfois dans un mois, 4 mois plus tard après le renouvellement d'un juge des libertés de la détention. Donc si vous voulez se dire, finalement, vous restez dans votre cage, et nous autres, gens vertueux, nous allons vous mettre un petit film et on va décider comme ça de votre sort pour les 4 prochains mois, pour la prochaine année ou autre, je trouve que c'est extrêmement violent. Et on est aux antipodes de l'esprit de notre droit pénal. D'ailleurs, j'ai vu passer, je ne l'ai pas lu en détail, mais un communiqué du syndicat de la magistrature, il me semble qu'il s'est prononcé sur cela, sur le risque de céder en se disant finalement les extractions deviennent trop périlleuses et il faudrait peut-être les éviter à tout prix et faire en sorte que toutes les audiences qui statuent sur le contentieux de la liberté seraient pour des raisons de commodité finalement. Voilà, je trouve que ce serait une justice totalement déshumanisée, déshumanisante aussi, autant pour celui qui la prononce que celui qui la subit.
Oui, parce que bah oui, il faut imaginer ce que c'est que de passer devant le juge d'instruction ou un juge qui va décider de votre liberté ou pas. On a besoin de son avocat à côté de soi. D'abord parce qu'on n'est pas soi-même. Donc quand vous êtes en visio depuis une prison, selon l'importance de l'enjeu, et c'est tous les jours des demandes de mise en liberté ou des choses comme ça. Imaginez qu'on pourrait généraliser ça, c'est Big Brother, quoi. Parce que vous avez besoin de votre avocat ou de votre avocate, tout simplement pour pouvoir lui dire un mot. Qu'est-ce que je dois répondre si l'avocat il est là? Pour compléter, pour dire, mais voilà, le juge vous demande si, parce qu'on est quand même, sauf les gros durs à cuire, on est quand même tétanisé devant un magistrat, parce qu'on joue très gros, souvent. Donc, la présence de l'avocat aux côtés, c'est. Alors, déjà, il y a quelques années, quand on a mis des vitres dans toutes les. Certaines, bon, il y a eu des protestations, on a démonté, on laisse une possibilité aux clients de s'entretenir avec l'avocat, parce que c'est complètement absurde de vouloir rendre la justice. Rendre la justice, c'est aussi voir un sourire que vous allez avoir si je vous pose une question un peu difficile, ou bien si vous êtes sincère à une autre question. Voilà. Et donc ça, c'est pas imaginable. Mais bien entendu, ça n'exclut pas, en maintenant ce système qui garante nos libertés, ça n'exclut pas de renforcer, bien sûr, les escortes, pour éviter que des drames aussi épouvantables que la semaine dernière se reproduisent, en donnant à certains détenus qui sont effectivement supposés dangereux les moyens de se défendre. Pas des pistolets à plomb. Quoi.
Je vais vous laisser le mot de la fin parce qu'on est...
Le mot de la fin, alors sur les visios, après, je j'entends ce que vous dites. Après, je pense qu'il y a des situations où la visio peut être pertinente, quand c'est pour signer un document d'acte de divorce, des choses comme ça, des choses qui sont vraiment banales et qui, coup, ne nécessitent pas... évidemment, quand il a besoin de voir le juge dans le cadre d'une enquête ou des choses comme ça, ça s'entend qu'il a besoin d'avoir...
Et une très brève réponse, selon vous, qui travaillez justement dans ces centres pénitentiaires, comment est-ce qu'on peut venir à bout de cette surpopulation carcérale, ou au moins améliorer les conditions de vie et de travail des agents pénitentiaires?
Moi, je pense que la réponse, elle est d'abord politique, parce que sans un engagement fort politiquement sur l'incarcération aujourd'hui et des états généraux sur justement la surpopulation, où tous les acteurs pourraient se mettre derrière la table, et je pense que la réponse, elle est multiple. Il n'y a pas de solution.
Oui, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir participé à ce débat trop court, toujours trop court, dans Île-de-France Politique. Vous allez rester avec nous. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, l'information se poursuit sur BFM Paris Île-de-France.